L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Le 7 juin de l'an 1858, Londres. Dans un brouillard qui pourrait laisser croire que le monde s'est évaporé, un bateau approche sur les eaux de la Tamise. À son bord, Sir Richard Francis Burton, parti en expédition en Afrique de l'Est un an plus tôt, aux frais de la très sérieuse et toute puissante Société royale de géographie anglaise. Peu importe cette purée de poids londonienne, ces fines gouttelettes qui lui lèchent le visage. Notre homme contient difficilement sa joie d'être de retour dans son pays. Plus que quelques heures à patienter et il pourra publiquement annoncer haut et fort la grande découverte qu'il a faite en ces territoires inconnus. Encore un peu de suspense et le mystère sera levé. Tous, ses détracteurs en premier, devront enfin reconnaître ses qualités d'aventurier, géographe, scientifique, écrivain, bref, son talent de formidable explorateur. Le plus grand du 19e siècle, comme on le pense maintenant. Sauf que cette annonce extraordinaire ne va pas se passer comme imaginé. Perdu dans ses rêves de gloire, Burton est à ce moment-là très loin de soupçonner le scandale qui l'attend. 17h30, c'est l'heure H de mon histoire. À peine débarqué sur les quais, Burton se fait héler par ses compagnons enthousiastes restés au pays. Est-ce qu'il est au courant de la dernière nouvelle dont tout le monde parle? Sait-il que le Times a annoncé l'extraordinaire découverte des sources du Nil? Ce qu'il cherchait a été trouvé par un autre. Et par qui? Par John Speke. Burton se décompose, tombe des nues et comprend. Cet homme, cet autre explorateur anglais, était son compagnon de voyage. Ils avaient monté, fait financer et entrepris cette expédition ensemble. À Zanzibar, leur lieu de départ, ils avaient conclu un pacte secret. S'ils découvraient quelque chose, ils l'annonceraient d'une seule voix. Speke avait rompu ce pacte. Rentré en Angleterre plus tôt que Burton, trop malade, pour entamer le voyage du retour, Speke avait annoncé au monde entier qu'il avait enfin trouvé les mystérieuses sources du Nil. La tête tourne à Burton. Jamais il n'avait imaginé pareille trahison. Speke, son second, engagé par lui-même, a été fêté en héros. À lui, la gloire et les honneurs. Pire encore, la Société royale de géographie soutient et croit Speke, alors même que les deux hommes ne sont pas d'accord sur le lieu exact de ces fameuses sources. Comment Burton a-t-il pu lui faire confiance? Oh, cette question le hante, le détruit même. Alors, pour se défendre et faire valoir son point de vue auprès de ceux qui seraient susceptibles de le soutenir, Richard Burton va revenir dans le détail sur cette expédition maudite. Pour prouver sa bonne foi, son exploit, le sien, et pas celui de ce menteur de Speke. Pour écouter son récit, retournons à Zanzibar, ce 17 juin 1857. Burton et Speke ont fini de rassembler tous les membres de leur expédition. Une troupe haute en couleur, imaginez. Plus d'une centaine de porteurs, des ânes pour le transport des hommes malades, des mules pour les bagages, des soldats armés, des guides qui parlent les dialectes des différentes tribus et même des femmes et des enfants. Cela ressemble à un bataillon d'armée bizarre et dépareillé. Le matériel à transporter donne lui aussi le tournis. Du mobilier, des tentes, les instruments de mesure, les rations de nourriture quotidienne pour l'ensemble de la colonne, des caisses contenant des cadeaux, tissus, perles et fils à offrir aux chefs des villages que leur chemin croisera. Une chose est sûre, ils ne partent pas pour une semaine de farniente au soleil. Et à l'époque, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne voyage pas léger. Songez, Burton fait transporter sa chaise pliable car il refuse de s'asseoir par terre. Cette simple chaise, les chefs indigènes la verront comme un trône magnifique et ils demanderont à plusieurs reprises à Burton de l'échanger contre de l'ivoire, des vaches, des esclaves. Mais l'Anglais ne cédera pas. Personne ne peut dire combien de temps va durer l'expédition. Un seul mot d'ordre, avancer. Jusqu'où ? Impossible à préciser puisque aucun Européen n'a encore foulé ces terres. Les sources du Nil, personne ne sait où elles se trouvent exactement. Les Égyptiens considéraient le Nil comme un dieu. Essayer d'en savoir plus, c'était commettre un sacrilège. Les Grecs et les Romains ne comprenaient pas qu'un fleuve si généreux puisse traverser d'aussi grandes zones désertiques sans s'assécher. Burton et Speke ont leur petite idée là-dessus. Le Nil serait approvisionné en eau par la fonte des neiges du Kilimandjaro. Ouais. Peu plausible selon eux. La quantité d'eau ne serait pas suffisante pour alimenter tout un fleuve. Non. Non, les deux explorateurs sont convaincus qu'un lac inconnu, un lac immense, situé bien plus au milieu des terres, déverse son trop-plein et forme les premiers mètres du Nil. Pure supposition, bien sûr, mais les marchands arabes qui œuvrent dans ces régions ont fait état de l'existence de mers intérieures. Pas un étang, donc, mais un plan d'eau conséquent. Burton et Speke savent qu'il sera plus facile de demander aux indigènes s'ils connaissent un grand réservoir d'eau que de leur poser la question des sources. Un immense lac, ça se voit. Des sources, aucun panneau indicateur ne les signale. Or, si une large rivière sort d'un de ces lacs et coule en direction du nord, il y a là de fortes chances pour que ce soit le Nil. Pour résoudre cette énigme et associer leur nom à cette découverte, il leur faut donc s'enfoncer dans les terres africaines, ce que aucun Européen n'a encore jamais fait. Ce qui prévaut en 1857, c'est l'exploration, l'exploit des premiers pas sur des sols vierges. On est encore loin de l'idée de la colonisation, de l'appropriation de terres. Pénétrer à l'intérieur d'un continent, c'est la grande aventure. Celle qu'on ne peut même plus imaginer aujourd'hui. Fouler des sols vierges et rencontrer des populations indigènes qui n'ont jamais vu l'homme blanc. Trembler en entendant les cris de guerre lancés d'une colline à l'autre. Croiser des arbres à côté desquels les plus beaux chênes d'Europe paraissent des nains. Des fourmis noires dont la tête de bulldog a des mâchoires si puissantes qu'elle peut tuer un rat. La mouche tsetse qui a un suçoir si aigu qu'il traverse la toile des hamacs. Milieu 19e siècle, les routes n'existent pas en Afrique de l'Est. Il n'y a que des pistes de 25 cm de large tracées par l'homme et qui disparaissent à la saison des pluies sous la végétation opulente. Si la côte de l'Afrique de l'Est est bien connue, car son accès par la mer en a permis une exploration soutenue, dans un intérêt purement commercial, les terres intérieures sont terrae incognita. En clair, la traite des Noirs, le ravitaillement des navires en route vers l'Inde ont motivé plus de missions que l'élaboration de simples cartes topographiques. Pour découvrir les sources du Nil, certains ont déjà essayé de le remonter, sans succès. Alors, Burton et Speke choisissent un autre chemin. Plutôt que de remonter le Nil, ils vont tenter de le descendre en infiltrant l'Afrique de l'Est depuis Zanzibar sur la côte. En 1858, l'île est une plaque tournante du marché d'esclaves. Burton et Speke savent qu'ils trouveront là tous les porteurs nécessaires à leur expédition. Pour résoudre cette énigme, les chefs de cette aventure ont un avantage. Ils se connaissent bien. Burton et Speke sont tous les deux officiers de l'armée anglaise et ils ont déjà participé ensemble à une expédition en Somalie, 4 ans plus tôt. Burton avait alors un objectif, pas moins délirant que cette expédition aux sources du Nil. Atteindre Harar, en Éthiopie, et pénétrer dans cette cité interdite dans laquelle aucun Européen n'a encore réussi à entrer. Les autorités locales sont particulièrement attentives à ce que cela n'arrive pas, car une prophétie locale peu engageante leur fait craindre le pire. La cité commencera à décliner le jour même où un chrétien franchira ses portes. Et voilà une difficulté qui excite Burton. Sans s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver s'il était découvert, il prend un déguisement de pèlerin pour pénétrer dans la ville sainte. Mieux, il y séjourne 10 jours sans que personne ne s'aperçoive de la supercherie. C'est lors du retour, quand il ne s'y attendait pas, qu'il échappe à la mort. Sans eau, à bout de force. Burton est à 2 doigts de laisser sa peau et quelques os dans le désert. Sa vie, il la doit à des oiseaux qui lui révèlent la proximité d'un point d'eau. Burton rejoint alors l'équipe qui avait été prévue en renfort au cas où la situation tournerait mal. 3 hommes l'attendent sur la côte de la mer Rouge. Et parmi eux, Speke. Cette expédition doit encore s'enfoncer dans les terres, mais le ciel n'est pas avec eux. Les 4 explorateurs sont violemment attaqués de nuit par les membres d'une tribu somalienne, alors qu'ils dormaient sous leur tente. Réveillés par des hurlements, les hommes sont encerclés par près de 200 indigènes. Les javelots pleuvent sur eux. Les sentinelles qui devaient les protéger se sont enfuies. C'est un combat entre 4 fusils et des centaines de lances, et les armes blanches ont raison de celles à balles. Speke est blessé à la cuisse, capturé et emmené dans le village des attaquants. Erne réussit à se sauver, sain et sauf. Stroyan, qui partageait sa tente, est mort. Burton a le visage en sang. Une sagaie lui a traversé la bouche, entrée par la joue gauche, elle est ressortie par la droite. L'explorateur gardera à vie la cicatrice de cette blessure et il l'arborera comme un trésor de guerre. Une très vilaine balafre qu'il a laissée en vie, alors que pour le même prix, il aurait bien péri. Par chance, cette nuit-là, Burton, qui ne se laisse jamais pour perdant, réussit à délivrer Speke et les 2 hommes, malgré qu'ils soient gravement blessés, parviennent à s'enfuir dans l'obscurité. Tant d'émotions communes, d'heures denses vécues ensemble, bah forcément, ça crée des liens. Alors, Speke et Burton sont amis? Pas vraiment. Pour être honnête, disons que ces 2 hommes se supportent et se respectent. Aucune trace d'une réelle amitié entre eux. Non, ils sont trop différents. Burton est fantasque, sulfureux, autoritaire. Il a du respect pour les indigènes et leur environnement. Speke est droit, renfermé, solitaire. Il est mal à l'aise avec les populations africaines et son goût pour la chasse frise l'obsession. Il aime tuer pour le trophée, quand les indigènes, eux, tuent pour se nourrir. La façon de chasser de Speke choque les indigènes. Abattre un rhinocéros et abandonner son cadavre car sa chair est immangeable est un sacrilège. Bref, cette nouvelle expédition à la recherche des sources du Nil va être dirigée par 2 hommes que de nombreux points de vue opposent. Burton s'en souviendra vite quand Speke le trahira plus tard.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Burton et de son second, Speke, 2 explorateurs anglais partis à la recherche des sources du Nil. Nous sommes en 1857. Personne ne sait où elle se trouve. Et ce mystère anime fiévreusement les discussions en Europe. Les 2 hommes ont ce grain de folie nécessaire pour s'engager dans cette expédition, mais leurs détracteurs doutent de leur réussite. Sans téléphone, ni signal GPS, Burton et Speke ont pour eux leur goût de l'aventure, des instruments de mesure d'un autre siècle et l'envie folle d'être les premiers. Combien de pièges et de danger les attendent. On n'imagine même plus aujourd'hui pareille aventure sur les globes. Officiellement, sur papier, cette expédition vers l'intérieur des terres a été financée pour étudier les mœurs des tribus locales et la possibilité de commerce pour les Britanniques. Inutile d'aiguiser l'appétit des autres nations par de grandes annonces. L'Angleterre n'est pas la seule à désirer associer son nom aux grandes découvertes de cet autre continent. Alors, l'expédition se met en route dans une certaine discrétion. Si Burton et Speke ont des personnalités très différentes, ils ont au moins un trait en commun, le goût de l'inconnu dangereux. Pensez à votre dernière balade en forêt, sur un sentier balisé, avec votre portable en poche. Puis, songez à ceci. Leur carte, une feuille blanche, ou presque. Les lieux, la savane, la brousse sans aucun chemin tracé. Et parlons des conditions. À chaque pas, un piège, ou presque. Certaines régions sont joliment nommées par les marchands arabes. Vallée de la mort, séjour de la faim. Une expédition dans l'espace paraîtrait moins risquée. Des animaux sauvages, carnivores bien sûr. Une population indigène très peu accommodante qui use de flèches dont la pointe a été enduite de poison. Des fièvres mortelles et autres virus sans nom. Ouais, pas de quoi s'ennuyer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut une bonne dose de folie et d'excentricité pour s'engager dans cette expédition. Dans le chef de Burton, ça n'étonne personne. Il est possédé par le démon de l'aventure et n'a qu'une passion, percer les secrets, outrepasser les interdits. En 1853, 5 ans avant cette expédition en Afrique de l'Est, l'Anglais réalise un autre exploit qu'aucun Européen n'a encore réussi et qui lui vaut sa première célébrité. Faire le pèlerinage à la Mecque, pénétrer dans la ville sainte sans être converti, c'est interdit, sous peine de mort. Plus jeune, Burton a déjà passé 7 ans en Inde et il est familiarisé avec les mœurs et les usages des musulmans. Cette fois, il se déguise en pèlerin, se laisse pousser la barbe et les cheveux, se teint la peau au henné. Par peur d'être démasqué, il va même jusqu'à se circoncire et devient Mirza Abdullah. Sous cette nouvelle identité, Burton entre dans la Mecque, fait 7 fois le tour de la Kaaba et parvient ainsi à étudier la pierre noire dont il rapportera des croquis et les mesures. Mais le danger n'est pas toujours là où on le croit. Au retour, pris d'un besoin urgent, Burton urine debout dans le désert. Un jeune arabe, engagé dans l'expédition, le voit. À cette époque, jamais les musulmans ne se soulageaient de cette façon. Un détail que Burton ignore. L'arabe qui l'a surpris dans cette position incongrue comprend l'imposture. Pour fuir et sauver sa peau, Burton n'a pas le temps de réfléchir et il le tue. Ce 17 juin 1857, la colonne de l'expédition se met donc en route. Burton en donnera tous les détails après son retour en Angleterre 2 ans plus tard, car il a pris de nombreuses notes chaque jour, consignées dans son journal de bord, sur les mœurs locales, la faune, la flore, la topographie, les langues. Même les comportements sexuels des populations croisées sont largement décrits. L'Angleterre victorienne du 19e siècle est puritaine et n'apprécie guère ce genre de détails, disons pratiques. Certains détracteurs de l'excentrique explorateur argumentent qu'il est impossible de décrire avec tant de précision des mœurs si intimes sans y avoir goûté soi-même. Sous-entendu, Burton s'est pas gêné pour satisfaire ses pulsions avec les indigènes. Plus jeune, Burton a servi l'armée britannique comme agent secret et il a enquêté sur un bordel en Inde. Le rapport rendu après sa mission était si détaillé que ses supérieurs s'en étaient presque étranglés. Depuis, certains le traitent de nègre blanc. Mais Burton n'en a que faire. C'est d'ailleurs lui qui a traduit de l'hindou en anglais un certain guide grivois, que vous connaissez d'ailleurs, le Kama Sutra. Que les chastes esprits se consolent avec ceci. Si la traduction de Burton a permis de diffuser ce livre, ces pages ont d'abord été écrites par un moine abstinent. Ouais. L'explorateur aime les mots, les langues, et traduit un autre ouvrage célèbre, beaucoup plus chaste, « Les mille et une nuits ». L'homme a un certain sens de la littérature. À ceux qui sont restés les pieds dans leurs pantoufles à Londres pendant qu'il risquait sa vie pour la gloire de son pays, Burton explique le quotidien de cette expédition. Et dans sa détermination, on peut lire cette revendication. La caravane qui les conduit aux sources du Nil, c'est bien lui son vrai chef, lui qui commande et prend les décisions. Et pas ce bluffeur de Speke qui ne fait que suivre. D'abord, Burton raconte les attaques qu'ils craignaient et qu'ils ont dû repousser à de très nombreuses reprises. Dans ces régions d'Afrique, le danger est présent dans chaque taillis. La violence envers l'homme blanc est couvée dans chaque village. Tout le monde a en tête le sort qui a été réservé quelques années plus tôt à Maisan, le premier Européen à s'aventurer dans ces terres. Le chef du village dans lequel il s'était arrêté l'avait d'abord accueilli à bras ouverts. Puis, soudainement, la situation avait senti le roussi. Ce même chef avait déclaré que Maisan devait mourir car il avait fait des présents à d'autres indigènes que lui. Jaloux comme des poux, les potentats locaux sont imprévisibles et l'aventurier avait été tué dans d'atroces conditions. Attaché à un baobab, il avait tout simplement été découpé en morceaux, dépecé vivant avec un couteau émoussé, sans aucun état d'âme de ses persécuteurs. De quoi alimenter les cauchemars de Burton et Speke. Et de tous les porteurs d'ailleurs, car aux yeux des tribus locales, les Noirs qui fraient avec les Blancs ne valent pas mieux qu'eux. Personne n'est à l'abri du jugement arbitraire d'un dirigeant local, d'une fantaisie cruelle ou d'un caprice fatal d'un despote sans sentiment. Après tout, l'homme blanc n'est qu'un animal bizarre qui se couvre les jambes avec de drôles de tubes en toile. Alors, pour effrayer les détrousseurs d'Européens, la caravane fait du bruit là où elle passe. Cris, chants et tam-tam déchaînés. De quoi faire croire à l'ennemi qu'il aura affaire à un adversaire plus puissant et nombreux, comme une chenille qui hérisse ses poils. L'expédition doit aussi se concentrer sur ses pas. Sentiers de boue, marécages dans lesquels les hommes s'enfoncent parfois jusqu'à la taille. Épineux qui lacèrent les corps, ravines profondes. Jungles aux lianes piégeuses, savanes aux herbes découpantes. Les lieux sont variés, mais tous ont un point commun. Aucun n'offre une facilité de progression et les conditions météo ne valent pas mieux. Brume qui vous pénètre jusqu'à l'os. Pluie à tout pourrir, rafale glacée, puis coup de soleil foudroyant. Un porteur est mort d'avoir eu la mauvaise idée de faire sa sieste au soleil. Pire, on est sur le sentier de la traite. Si vous ne finissez pas vendu comme esclave, vous pouvez remercier le ciel. Ces difficultés épuisent la troupe, démoralisent les hommes. Qui n'aurait pas envie de déclarer forfait, Tant pis pour la prime promise à l'arrivée. L'étrange idée court aussi parmi les porteurs que les Blancs sont généralement cannibales et les emmènent à l'intérieur du pays pour les dévorer à leur aise. Alors, certains profitent d'une pause pour fuir, abandonnant leur fardeau sur place. D'autres rassemblent leurs affaires la nuit, puis disparaissent. On ne les reverra plus. Les déserteurs se sauvent seuls ou en bande organisée. Burton et Speke ont alors à répartir la charge de ces manquants sur les têtes restantes. Ce qui n'améliore pas le moral de ceux qui, par honnêteté ou couardise, sont restés et subissent cette marche forcée. Pourtant, les porteurs savent pertinemment bien que le sort des deux Blancs dépend d'eux. Sans eux, pas d'expédition. Alors régulièrement, les porteurs s'arrêtent, refusent d'avancer plus loin, sans une longue pause, une ration de nourriture plus importante, une augmentation de salaire, des cadeaux. S'ensuivent des négociations âpres et serrées. 3 jours de repos, une chèvre sacrifiée, des coupons de tissu partagés, quelques poignées de perles en verre. Burton et Speck, malgré toute leur supériorité, sont obligés de céder. Faute de quoi, ils peuvent au mieux faire demi-tour. Au pire, périr là, sans aide ni guide. Une fois leurs revendications entendues, les porteurs se remettent en marche. Jusqu'à la prochaine discussion. Et tout ça pour un fleuve. Mais que cachent donc ces eaux de si précieux que les Européens y tiennent tant, Une folie des Blancs, pensent les indigènes. Faut pas essayer de comprendre. Juste penser à survivre dans cet enfer. Si les relations sont tendues entre Burton, Speck et les indigènes, elles ne sont pas meilleures entre les différentes tribus. Chacune a son territoire bien délimité et franchir ses frontières invisibles, c'est chaque jour un risque renouvelé. Wamrami, Waumba, Wagogo, si ces noms sonnent à nos oreilles de façon si exotique qu'on les associe à des peuples forcément semblables, c'est une grossière erreur. Ignorance de l'homme blanc. Chaque tribu a ses lois et ses mœurs. Même si Burton ajoutera avec un sarcasme tout britannique que toutes ont quelque chose en commun, elles ne se supportent pas. Haine envers le voisin, méfiance et agressivité, les conflits sont permanents. La caravane doit être sur ses gardes à chaque instant et c'est épuisant. Les nerfs de nos deux explorateurs sont à vif, d'autant que circulent dans la région des marchands arabes qui mettent le feu aux cases et capturent tout ce qu'ils peuvent comme esclaves à revendre à Zanzibar. Hommes, femmes, enfants, tout est bon. Alors, dès que Burton et Speck arrivent dans un village, ses habitants ont déjà fui. La caravane a besoin d'échanger quelques marchandises contre de quoi manger, mais les lieux ont déjà été vidés. Il faut parlementer, négocier, patienter parfois plusieurs semaines. Quand la caravane s'arrête contre son gré, Burton observe, discute, prend des notes pour utiliser le temps perdu à bon escient. Ce sont là d'excellentes preuves, si jamais il ne trouve pas les sources du Nil, qu'il aura tout du moins enrichi la science. À la bonne société londonienne en crinoline, dentelle et chapeau de forme, il pourra en raconter des histoires incroyables, comme celle de l'énorme femme du sultan. La famine affame les indigènes, mais pas les dirigeants de tribus. Pour se distinguer de ses ouailles malingres et affaiblies, le chef engraisse sa bien-aimée, au point que l'épouse que verra Burton ne sait plus se lever. Cette femme, décrite par Speck dans son journal, aussi grosse qu'un hippopotame, ne marche plus qu'à 4 pattes dans sa case. Surréaliste, choc des cultures. Burton pourra aussi narrer un soir d'hiver anglais l'histoire du chef malade qui désigne le coupable de ses maux à l'aide d'une poule. Burton se souvient de ce jour où tous les villageois et membres de l'expédition, rassemblés dans un cercle poussiéreux au milieu des cases, ont vu le volatile gavé d'un filtre mystérieux puis jeté en l'air. Celui auprès de qui l'animal retombe est désigné responsable de la maladie du chef et par conséquent, immédiatement tué. Le plus souvent, à coup de lance ou la tête éclatée entre 2 planches serrées jusqu'à ce que mort s'en suive. Si la maladie du dictateur se prolonge ensuite, d'autres victimes sont immolées, parfois par dizaines. Le Times en aurait fait ses choux gras. Une poule tue le grand explorateur Burton. Il y a des titres qui ne s'inventent pas.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Dans l'heure H cet après-midi, nous mettons nos pas dans ceux de 2 hommes, les Anglais Burton et Speck, qu'en 1857, l'exploration d'un continent encore largement inconnu n'effraie pas. plus précisément, l'exploration des terres intérieures de l'Afrique de l'Est à la recherche des sources d'un fleuve majestueux, nourricier pour tout un peuple, le Nil. Au cœur de cette région d'Afrique qu'aucun blanc n'a encore foulée. Nous sommes à mille lieues des conventions de la société anglaise, mille lieues des mœurs connues en Europe. Tout est surprenant, déroutant, difficile, accablant. La caravane, conduite par Burton et Speck, avance, s'arrête, se traîne. Les déboires sont quotidiens, les problèmes permanents. La peur et l'angoisse omniprésentes, mais l'espoir des deux hommes reste entier. Ces sources mystérieuses, bientôt ils l'espèrent, s'offriront à eux. Après 4 mois et demi de marche dans ces conditions difficiles, la caravane arrive enfin à Kazé, aujourd'hui Tabora en Tanzanie, grand dépôt central de la traite et du commerce d'ivoire. N'imaginez pas une ville-étape. Pensez plutôt à un village pauvre et croulant, très animé par le bruit et les cris des caravanes arabes qui passent toutes par là, à bout de souffle, épuisés. Les hommes ont besoin d'une bonne nouvelle pour retrouver des forces et du courage. Et cette bonne nouvelle, à laquelle personne ne croit vraiment, elle les attend là. Burton parle arabe. Personne ne s'en étonne car il parle plus de 30 langues, c'est sa passion. On dit même qu'il élève des singes pour apprendre leur langage. Alors, l'hindoustani, l'arabe, bien sûr, ce ne sont pas ces grammaires étrangères qui l'arrêtent. Speck n'a pas ce nom. Bombay, un guide local qui les accompagne depuis le départ, traduit ce qu'il ne comprend pas. Il manque donc de s'étrangler avec Burton quand le cheikh local leur glisse ceci. Oui, il y a bien 2 lacs dans la région. L'un immense comme une mer et mince comme une frite, appelé Tanganyika. Une maxi-frite de plus de 700 km de long. L'autre, plus au nord, moins grand, mais dont on ne voit tout de même pas la rive opposée, s'appelle le Nyanza. C'est l'actuel lac Victoria. Des cartes? Des informations topographiées sur l'emplacement de ces lacs? Le cheikh n'en a pas. Pourquoi faire? Les caravanes suivent toutes le même chemin. Mais pour les 2 explorateurs, c'est la délivrance. Ils en sont certains. D'un de ces lacs sort une rivière qui coule vers le nord. C'est sûrement là que se trouvent les sources du Nil. Il n'y a plus qu'à y aller. Sauf que il n'y a plus qu'à dans la savane, avec des porteurs exténués. Ce serait plutôt il y a encore à, parce que les sources du Nil, il n'y a que Burton et Speck que ça intéresse. Le restant de la colonne n'est là que pour toucher une prime, un salaire. Pas pour visiter du pays, ni avoir son nom inscrit dans la postérité. Manger et dormir aujourd'hui, profiter demain. Voilà les soucis des porteurs. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, Burton est malade. La malaria en a fait une loque. Il ne tient plus debout et est incapable d'avancer dans cet état. Alors, après concertation, les 2 hommes conviennent que Speck partira seul, avec Bombay, explorer le Tanganyika. Burton enrage de devoir laisser son compagnon d'exploration partir en solitaire. Si Speck trouve les sources, il sera le premier. Et lui, l'homme faible, amoindri dont on aura pitié. Mais fulminé n'a jamais guéri personne. Pendant que Burton est cloué sur sa paillasse dans une hutte crasseuse, Speck, Bombay et leurs porteurs s'approchent de la gloire. Un indigène qui habite sur les bords du Tanganyika leur confirme ce qu'ils espéraient entendre. Une rivière communique bien avec ce lac. Excitation totale sous le crâne de Speck. Mais désespoir aussi, car il lui est impossible d'aller vérifier. Les rives sont habitées par des tribus cannibales, réputées apprécier la chair humaine crue. On dit même qu'ils échangent volontiers une chèvre en bon état contre un enfant malade, destiné à leur terrifiant repas. Aucun porteur n'accepte de poser un pied sur leur territoire. L'expédition doit faire demi-tour. De retour à Kazé, l'expédition retrouve un Richard Burton guéri et intérieurement réjoui de l'échec de Speck. Cette fameuse rivière sort-elle du lac ou est-ce qu'elle y rentre? Burton voudrait le savoir et il interroge Speck. Mais cela, aucun témoin ne l'a précisé. C'est pourtant une information capitale. Alors Speck va l'inventer. Affirmer ce qu'il ne sait pas. Oui, bien sûr, un chef de tribu le lui a dit. La rivière sort du lac. Mensonge. Burton, qui retournera vérifier lui-même, après avoir bravé les mangeurs d'hommes, s'en apercevra en voyant les eaux de ce cours d'eau gonfler celles du lac et non s'en échapper. Fureur. Les sources du Nil lui échappent. Tout ce maudit voyage pour rien. Si les deux hommes ne s'appréciaient pas, ils ne cachent plus maintenant leur haine respective. Tout est à recommencer. Burton accuse le coup, tombe à nouveau malade. Speck, lui, souffre d'inflammation oculaire et perd partiellement la vue. Malgré ces difficultés, le 3 août 1858, soit plus d'un an après leur départ de Zanzibar, Speck part explorer un second lac dont ils ont entendu parler, le Nyanza. Selon les indigènes, il faudrait un mois pour espérer le traverser en canot. Imaginez sa taille. Bombay l'accompagne encore comme seconde paire d'yeux. La plupart de leurs instruments de mesure pour faire des relevés topographiques ont été perdus ou volés. Mais l'anglais a une méthode très personnelle pour déterminer l'altitude d'un lieu. Il place de l'eau dans une casserole, plonge un thermomètre dedans et met le tout sur un feu. Quand les premières bulles se forment dans le fond, quand l'ébullition prend, Speck retire le thermomètre. La température indiquée est alors comparée à des chiffres étalons reportés dans un des carnets du scientifique. Au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Plus l'altitude est élevée, plus la température d'ébullition baisse. Et à ce petit jeu-là, le résultat du Nyanza qui s'étend devant eux est sans appel. Quand l'eau bout devant Speck, le thermomètre indique 96 degrés Celsius. L'altitude du lac est donc élevée, 1135 mètres. Comprenez, suffisamment élevée pour accoucher d'un fleuve qui s'écoule à travers tout un continent à moitié désertique. Conclusion de Speck, il en est sûr. Cette fois, c'est bingo. Ce lac est le grand réservoir naturel qui approvisionne le Nil. Il le renomme lac Victoria en l'honneur de sa reine. De retour à Kazeh, Speck expose sa découverte, ses certitudes à Burton, mais ce dernier reste sceptique, refuse d'y retourner et déclare que l'expédition est terminée. C'est la rupture définitive entre les deux explorateurs. Jalousie, aigreur. Burton, qui est le seul chef de cette mission, ordonne à Speck de rentrer à Londres. Lui patientera à Zanzibar et prendra le bateau plus tard, car il est encore trop affaibli pour voyager. Avant de se séparer, les deux hommes concluent un pacte. Interdiction pour Speck de révéler quoi que ce soit avant le retour de Burton en Angleterre. Alors qu'ils se détestent, ils se font une promesse. Ils iront ensemble à la Société royale de géographie révéler ce qu'ils ont découvert. Une promesse que Speck ne tiendra pas. Dès son retour à Londres, il informe ceux qui ont financé l'expédition de ses découvertes et demande la mise sur pied d'une autre expédition dont il sera le chef. Elle lui est accordée et Speck repart explorer le lac Victoria avec le capitaine Grant. Ils reviendront avec d'autres mesures, d'autres cartes, en proclamant que cette fois c'est officiel. Ils ont découvert les sources du Nil au nord du lac Victoria. Speck publie même le journal de la découverte des sources du Nil. Une page qui se tourne. Pas vraiment, du moins pas encore, car Burton n'est pas d'accord avec ce point de vue et la polémique s'engage. Il dit Speck incapable d'effectuer des relevés topographiques, de se servir d'instruments de mesure, d'évaluer la géographie d'un lieu. Speck n'a pas d'argument solide à opposer à ses critiques. Alors il attaque lâchement Burton, en l'accusant d'avoir essayé de l'empoisonner durant l'expédition. Oh, c'est le grand déballage. La Société royale de géographie, qui attrape des boutons à entendre cet étalage peu glorieux, ordonne un débat public pour mettre un terme à cette polémique. Les deux hommes devront publiquement exposer leurs arguments et on jugera ensuite. Alors, ce 16 septembre 1864, dans les bâtiments de la Société royale de géographie, Burton attend, assis sur son banc, l'arrivée de son adversaire. Speck est en retard. Peut-être a-t-il renoncé à venir débattre son point de vue. La foule s'est déplacée. La salle est pleine à craquer. Personne ne veut rater un mot de ce qui va être dévoilé. Le mystère des sources du Nil s'est étrangement épaissi avec ces deux expéditions. Un brouhaha s'élève au-dessus des têtes bien pensantes quand soudain, un homme fait une annonce glaçante. Speck ne viendra pas. Speck ne viendra jamais. Stupéfaction totale sur les bancs. Speck a été tué par un coup de feu perdu lors d'une partie de chasse la veille. Il n'y a aucun témoin. Burton est sous le choc. Il détestait cet homme, mais le voilà mort. Certains chuchotent déjà que Speck s'est suicidé car il n'avait pas le courage de défendre sa thèse. Une chose est sûre, Burton ne veut plus faire son intervention publique. Chacun croira ce qu'il voudra. Il quitte la salle, bien décidé à ne plus jamais parler de cette expédition maudite vers les grands lacs d'Afrique. Alors, ne lui avouons pas que Speck avait en partie raison. On sait aujourd'hui que le Nil naît dans le lac Victoria. Le mystère est donc levé. Vraiment ? Non. Ce serait trop simple. Car plusieurs rivières se jettent dans ce lac et l'alimentent. La plus longue d'entre elles n'est-elle pas plutôt la vraie source du Nil ? Dans ce cas, c'est un petit filet d'eau qui jaillit à 2500 mètres d'altitude, au cœur des forêts rwandaises qui forment les premières gouttes du fleuve. Ni Burton, ni Speck n'ont donc découvert cette source rêvée, mais que ces formidables explorateurs se consolent. Ne dit-on pas que la valeur du chemin vaut parfois le but. Voilà pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Caroline Huppé.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.